Il y a une expérience universelle que presque tout le monde connaît, là, que ce soit en personne ou sur une application.
Ouais.
C'est l'acte de commander un fameux trio au service au volant d'un restaurant rapide. Tu sais, on s'approche du micro, on appuie sur un bouton sur notre écran, puis on dit juste un chiffre. Genre, je vais prendre le trio numéro 4.
Ah oui, le grand classique.
C'est ça. Pour l'acheteur, ben, l'expérience est parfaitement fluide, c'est abstrait, c'est unifié. C'est juste un seul concept.
Ouais, un seul bouton.
Mais dans la cuisine, derrière le comptoir, c'est une toute autre réalité, là. Il faut absolument que quelqu'un ou qu'un système sache exactement combien de galettes de viande, combien de portions de frites, quelle taille de gobelet, puis quelle sauce ça représente.
C'est sûr.
Parce que si l'écran de la cuisine affiche seulement un concept abstrait appelé « numéro 4 », ben c'est la paralysie totale. Il n'y a rien qui va fonctionner.
Exactement.
Fait que notre analyse approfondie d'aujourd'hui s'attaque exactement à ce problème-là, ce problème de traduction entre l'intention d'achat puis la réalité physique, mais dans le monde complexe du commerce en ligne.
C'est un sujet fascinant, vraiment.
Je suis fascinée aussi. On se penche sur un document, une mise à jour majeure du blog de la plateforme d'expédition ClickShip qui annonce une nouvelle fonctionnalité appelée SKU Bundles, ou les lots de produits, si on veut.
Ouais.
Et notre mission aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent, c'est de comprendre toute la machinerie cachée derrière une action qui semble super banale. Tu sais, l'achat d'un ensemble cadeau sur une boutique en ligne.
C'est loin d'être simple, hein? Ouais.
Bien, avant d'aller plus loin, faut définir notre terme central. Un SKU, ça veut dire quoi au juste dans ce contexte-là?
Bien, c'est la base de tout, là. SKU, c'est l'acronyme anglais pour Stock Keeping Unit ou Unité de gestion des stocks en français.
OK.
C'est essentiellement le code unique, c'est l'ADN informatique qu'un commerçant donne à un article spécifique pour suivre son inventaire.
Genre un code barre?
Oui, un peu. Un T-shirt rouge de taille moyenne va avoir un SKU différent du même T-shirt rouge, mais en taille grande, par exemple.
Logique.
Puis ton analogie du service au volant, ben c'est la métaphore parfaite pour illustrer le problème fondamental que le commerce en ligne affronte avec les lots.
Ah oui.
Ouais, parce que cette simplicité-là que l'acheteur recherche, cette facilité d'ajouter un seul grand ensemble au panier d'achat, ben ça se transforme très souvent en un véritable cauchemar logistique.
Ouf, OK.
C'est ce qu'on appelle dans l'industrie la déconnexion des stocks. Il y a un fossé gigantesque entre la belle image promotionnelle que la vitrine virtuelle affiche, puisque le logiciel de gestion de l'entrepôt est réellement capable de déchiffrer.
C'est justement cette illusion-là de simplicité qui m'intéresse. Tu sais, quand on magasine en ligne, on adore acheter des produits connexes d'un seul coup.
Tellement?
On pense aux ensembles cadeaux pour le temps des fêtes ou aux trousses de départ pour un nouveau passe-temps comme le tricot ou le brassage de bière.
Les emballages multiples aussi.
Exact. Les emballages multiples pour économiser. Pour la personne qui navigue sur le site, ben c'est l'expérience idéale. Un clic, un prix fixe, puis bingo.
Ouais, c'est magique.
Mais d'un point de vue informatique, les plateformes de commerce électronique ont la fâcheuse habitude de traiter ce lot-là comme un seul produit monolithique. C'est un bloc de béton virtuel.
Absolument. C'est exactement ça. Puis c'est là que le fameux effet domino de la déconnexion des stocks s'enclenche, là.
Comment ça se passe en vrai, là?
Ben, imagine la scène. Le code SKU du lot parent. Mettons qu'on l'appelle la trousse hivernale 2026.
OK, j'aime ça.
Il est traité par la plateforme de vente comme un article en soi. L'argent est encaissé, la commande est validée.
Parfait.
Mais les codes SKU des articles individuels qui composent réellement ce lot-là, genre la tuque, les mitaines puis le foulard, ben ils restent complètement invisibles pour le système d'exécution des commandes.
Voyons donc.
Ah oui? Le système informatique envoie juste un message à l'entrepôt qui dit de préparer une trousse hivernale 2026.
Puis là, c'est la panique.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'allée dans l'entrepôt avec de belles boîtes préemballées portant l'étiquette « trousse hivernale ».
Oh non.
Ben non. Il y a seulement de gigantesques étagères remplies genre de centaines de tuques d'un côté, des bacs de mitaines de l'autre, puis des boîtes de foulards tout au fond, là.
Attends. Je veux être bien certaine de comprendre, là. Laisse-moi essayer de visualiser concrètement ce que ça implique pour le travailleur sur le plancher.
Vas-y.
Si le système ne fait pas le lien... ça veut dire que l'employé qui reçoit l'étiquette d'expédition avec le nom trop cybernal doit littéralement s'arrêter de travailler.
Oui.
Il doit quitter sa station puis aller consulter la page web de la boutique comme un client normal, juste pour vérifier ce que le département de marketing a décidé de mettre dans cette fameuse trousse cette semaine-là.
Bien, historiquement, dans beaucoup de petites puis moyennes entreprises, oui, c'est exactement ça, là.
C'est fou! C'est tellement de perte de temps.
Tellement. Ou alors, ils ont un gros tableau blanc sur le mur de l'entrepôt avec des listes écrites à la main pour chaque promotion en cours.
Sérieux, un tableau blanc?
Ouais, un tableau blanc avec des marqueurs effaçables. C'est une méthode incroyablement archaïque qui découle juste d'une simple lacune informatique, tu sais. L'incapacité du système logistique de percer la carapace du codé SKU par an.
Wow.
Puis les conséquences vont bien au-delà de la perte de temps, là. À court terme, la précision des commandes s'effondre.
Une erreur humaine, dans le fond.
Exact. L'employé qui doit préparer des centaines de colis à l'heure pourrait super facilement oublier de mettre le foulard dans la boîte. L'efficacité est juste détruite par ce va-et-vient constant.
Fait que j'imagine que le pire dans tout ça, c'est l'impact sur l'éventail global.
Ah, ça, c'est le clou dans le cercueil.
Mettons qu'on vend 50 trousses hivernales, les tucs physiques quittent l'entrepôt, mais le système informatique, lui, il pense que l'inventaire des tucs individuels n'a pas bougé pantoute.
C'est ça.
Parce qu'il a seulement enregistré la vente du gros lot par an?
T'as tout compris. C'est le cœur du problème à long terme. Tes décomptes de stock deviennent rapidement fictifs, tu sais.
Fait que tu penses qu'il t'en a, mais t'en as plus.
Voilà. Tu continues de vendre la tuque individuellement sur ton site web parce que ton système te dit que t'en restes, mettons, 100 en inventaire.
Aïe, aïe, aïe.
Mais en réalité, tes étagères sont complètement vides parce qu'elles ont toutes été vidées pour remplir les lots de la tousse hivernale.
C'est le désastre garanti.
Tu te ramasses donc avec des dizaines de commandes individuelles qui sont impossibles à honorer, là.
Puis là, faut gérer les clients fâchés.
C'est ça. Tu dois faire des remboursements manuels, envoyer des courriels d'excuses pour dire que le produit est en rupture de stock. Inévitablement, la satisfaction de la clientèle plonge.
Tout ça à cause d'un manque de communication entre la vitrine de vente puis le système d'expédition. C'est incroyable.
Ouais. C'est pour ça que la solution technique de ClickShip est si importante.
Ce qui nous amène justement à ça.
Oui.
Parce que c'est là que l'innovation devient vraiment intéressante dans le document.
Oui.
La mise à jour de ClickShip introduit ces fameux SKU bundles pour combler ce vide-là.
C'est leur grosse nouveauté.
Techniquement, si je comprends bien, cette fonctionnalité-là agit un peu comme un pont de traduction et elle relie de manière permanente puis officielle le code SKU du lot parent à ses composants individuels avec leur quantité précise.
Exactement ça.
Fait que quand la commande franchit la porte numérique de ClickShip, le brouillard se lève automatiquement.
Tout à fait.
L'équipe logistique n'a plus du tout besoin de tableau blanc ou d'aller fouiller sur le site web. Le système décompose tout instantanément.
Le terme clé ici, là, pour comprendre la mécanique en dessous de ça, c'est la cartographie, ou le mapping des données, comme on dit souvent en anglais.
La cartographie, OK.
C'est pas juste un petit affichage visuel. La plateforme permet aux vendeurs de cartographier les produits individuels en arrière de l'annonce du lot.
OK, je vois.
Ce qu'on fait sur le plan de l'architecture des données, c'est d'en créer une idée purement marketing. Tu sais, l'ensemble cadeau virtuel a des vraies affaires physiques tangibles dans le monde réel.
Oui.
Puis cette traduction-là, ben, permet d'injecter des détails super granulaires au niveau de l'article individuel dans toutes les étapes critiques qui suivent.
Partout dans la chaîne.
Exact. Que ce soit le traitement de la commande, la préparation de la boîte physique ou même les formulaires de douane pour l'international.
OK, décortiquons ça, là. Pour utiliser une image, c'est un peu comme donner des lunettes à rayon X aux travailleurs de l'entrepôt, non?
Ah, j'aime l'image.
Tu sais, avant, ils voyaient juste une grosse boîte opaque avec un code-barre par an collé dessus.
C'est ça. Ils étaient aveugles au contenu.
Exact. Ils étaient aveugles. Mais là, avec cette cartographie logicielle-là, ils regardent le même code-barre puis ils voient à travers la boîte. Ils voient très clairement les trois articles spécifiques à l'intérieur.
L'analogie des rayons X est super bonne pour l'aspect visuel, mais laisse-moi nuancer un tout petit peu, là.
Vas-y.
Des lunettes à rayons X, ça te permet seulement de voir ce qui est dedans. La vraie force d'une cartographie de base de données, c'est qu'elle rend cette information-là exploitable par des algorithmes vraiment complexes.
Exploitable? Comment ça?
Bien, l'information toute seule, si elle reste juste sur un écran d'ordinateur, elle ne règle pas les problèmes physiques de l'expédition. Ce qui change la donne avec une intégration comme celle de ClickShip, c'est que cette donnée-là vient modifier puis automatiser trois étapes physiques et financières super précises.
Lesquelles?
La toute première, puis c'est un enjeu financier majeur pour les marchands, ce sont les tarifs d'expédition en temps réel au moment de passer à la caisse.
Ah oui, le prix qu'on paye pour la livraison.
Poids des produits individuels cartographiés à l'intérieur du lot pour interroger les transporteurs. Ça donne un prix d'expédition exact pendant que l'acheteur a encore sa carte de crédit dans les mains.
Attends 10 secondes, là. Je t'arrête sur cette histoire de tarifs à la caisse. Laisse-moi jouer l'avocate du diable un peu.
Vas-y, je suis prêt.
Pourquoi on aurait besoin de voir à l'intérieur du lot pour calculer le tarif de livraison de manière dynamique? Si l'équipe de marketing crée la fameuse trousse hivernale, Bien, elle a juste à mettre les trois objets dans une boîte standard, peser cette boîte-là une bonne fois pour toutes, puis entrer ce poids fixe dans le système, non?
C'est ce qu'on pourrait penser, ouais.
Pourquoi s'embêter, tu, à faire calculer le poids puis les dimensions de chaque petite composante en temps réel par un algorithme? Ça me semble compliqué pour rien.
Bien, c'est une excellente question, honnêtement. Puis c'est d'ailleurs l'erreur que font beaucoup de nouveaux commerçants qui se lancent.
Ah oui, hein?
Ta logique fonctionne uniquement si le client achète la trousse hivernale puis absolument rien d'autre.
Oh!
Mais dans la vraie vie du commerce en ligne, tu sais, les commandes sont asymétriques puis imprévisibles.
C'est vrai qu'on rajoute souvent des petits trucs à la fin.
Exactement. Imagine que ton client achète la trousse hivernale puis décide d'ajouter à son panier un parapluie super long.
OK.
Ou bien un gros manteau d'hiver super lourd. Le transporteur, lui, il tarifie pas seulement au poids brut, il utilise ce qu'on appelle le poids volumétrique.
Et le poids volumétrique, ouais, c'est l'espace que ça prend dans le camion.
C'est en plein ça. L'espace total que le colis occupe. Fait que si le système connaît juste le poids fixe de la boîte de la trousse, ben il est complètement incapable de calculer comment cette trousse-là va s'imbriquer avec le grand parapluie dans une boîte d'expédition beaucoup plus grande.
Ah, je viens de comprendre.
En connaissant les dimensions individuelles de la tuque, des mitaines, du foulard puis du parapluie, l'algorithme virtuel simule l'emballage optimal en temps réel, tu sais. Puis là, il te donne un tarif précis.
Waouh, c'est brillant!
Parce que sans ça, le commerçant sous-estime souvent les frais de port facturés au client puis finit par payer la différence de sa propre poche, ce qui gruge complètement sa marge de profit.
Ah, je vois très bien. La fluidité des commandes combinées rend l'idée d'un poids fixe complètement obsolète, dans le fond. C'est super logique.
Ouais, c'est une question de survie financière.
Fait que ça, c'était la première étape. C'est quoi la deuxième étape physique qui est transformée?
La deuxième, ce sont les listes de prélèvements. Ou les pick lists, pour utiliser le jargon d'entrepôt, là.
OK, le papier pour dire quoi ramasser.
C'est ça. Grâce à la cartographie, l'employé qui marche dans les allées reçoit un document généré automatiquement qui décompose le lot.
Fini le tableau blanc.
Exact. Il n'y a plus aucune devinette. La liste lui dicte d'aller directement à l'allée 4 pour prendre la tuque, puis ensuite à l'allée 7 pour ramasser les mitaines.
Ça doit tellement réduire la charge mentale de ces employés-là.
Énormément. Ils n'ont plus pantoute besoin de mémoriser les 30 promotions en cours. Puis évidemment, ça fait chuter le taux d'erreur de préparation drastiquement.
J'imagine très bien. Puis c'est quoi la troisième étape?
Ça nous mène direct à la troisième, oui. Les bordereaux d'emballage.
Quoi?
Exact. Le papier qui se trouve à l'intérieur de la boîte quand tu l'ouvres chez vous, là. Le système génère maintenant un bordereau qui affiche une arborescence super claire.
Ça veut dire quoi, au juste?
Bien, tu vas avoir le nom du lot parent acheté, mettons à trousse hivernale, qui est écrit en haut. Puis juste en dessous, tu vas voir la répartition détaillée du contenu, article par article, avec les quantités.
Oh, c'est le fun, ça!
Cette transparence-là est cruciale. L'acheteur voit exactement ce qu'il était censé recevoir. Ça facilite énormément les retours ou les réclamations s'il manque vraiment un élément.
C'est vrai que des fois, tu reçois un kit, puis tu te souviens même plus de ce qu'il y avait supposé dedans.
Voilà. On instaure vraiment une vérité unique puis partagée entre le client, le préparateur de commande puis le logiciel.
C'est que la valeur de cette fonctionnalité-là est complètement indéniable. Mais si on se place du point de vue de l'opérateur, tu sais, de la personne qui doit paramétrer tout ça derrière son écran d'ordinateur.
Oui.
Est-ce que c'est une usine à gaz à configurer? Parce que dès qu'on commence à parler de cartographie relationnelle puis d'algorithme, moi, j'imagine des lignes de code interminables.
Ben, pas du tout. En fait, l'architecture logicielle moderne vise justement à cacher cette complexité-là derrière des interfaces utilisateurs super intuitives.
Fait que c'est simple.
Le processus se divise en étapes logiques vraiment simples, oui. Premièrement, le commerçant crée le produit lot dans sa boutique en ligne, mettons sur Shopify ou WooCommerce.
OK, l'annonce de base.
C'est ça. C'est là que réside l'annonce visuelle pour le client, puis le fameux code SKU parent.
Puis après?
Ensuite, l'intégration quand le relais. Dans ClickShip, on cherche ce produit parent-là. On coche une petite case spécifiant qu'il s'agit d'un SKU bundle, puis on recherche simplement les produits individuels déjà existants dans la base de données pour les lier.
Juste en cliquant?
Ouais, en précisant les quantités de chacun, là. Tu sauvegardes, puis c'est terminé. L'algorithme charge de tout le reste à chaque fois qu'une commande qui contient cela-là est importée.
Ah, c'est super intuitif, en effet. Mais en fouillant un peu dans les sources, j'ai remarqué que des espèces de balises de sécurité, tu sais, des règles strictes intégrées au système pour éviter que ça déraille.
Absolument. Il y a des balises.
Par exemple, tous les produits qui composent un lot doivent provenir de la même vitrine numérique connectée. C'est assez logique.
Ouais.
Puis la quantité totale combinée doit être d'au moins deux articles. Sinon, ben, par définition, c'est pas un lot.
Exact.
Mais la contrainte qui pique vraiment ma curiosité, là, c'est celle sur l'imbrication.
Ah, la fameuse règle d'imbrication.
Il est strictement interdit d'utiliser un SKU bundle existant, comme composant à l'intérieur d'un autre SKU bundle. Pas de concept de poupée russe.
C'est ça, pas de poupée russe.
Je suis pas certaine de comprendre pourquoi, par contre. Est-ce que ça limite pas inutilement la créativité d'une équipe de vente qui voudrait inclure un mini-lot à l'intérieur d'un méga-lot pour le Black Friday, par exemple?
Mais c'est une réaction super courante de la part des équipes marketing, ça, là. Ils voient souvent ça comme une limitation frustrante pour leur campagne.
Ben oui, je les comprends.
Mais d'un point de vue de l'ingénierie des systèmes, interdire les poupées russes, c'est une mesure de survie absolue pour la base de données.
Une mesure de survie?
Oui.
Si tu permets d'imbriquer des lots à l'infini, tu ouvres grand la porte à ce qu'on appelle des références circulaires, des boucles logiques infinies, tu sais?
C'est-à-dire? Ça semblerait à quoi une boucle infinie?
Mettons qu'un employé lit par erreur le lot A à l'intérieur du lot B.
OK.
Puis quelques mois plus tard, un autre employé lit le lot B à l'intérieur du lot A.
Oups!
Le jour où un client achète le lot A, bien, le serveur essaie de calculer l'inventaire nécessaire. Il lit qu'il a besoin du lot B. Fait qu'il ouvre le lot B. Puis là, il lit qu'il a besoin du lot A.
Oh mon Dieu!
Et ainsi de suite, des milliers de fois par seconde, l'algorithme entre dans une boucle infinie de requêtes, puis le serveur informatique plante complètement là.
Ça fait exploser le système.
Exactement. En forçant chaque lot à ne contenir que des articles primaires, c'est-à-dire la composante physique finale puis indivisible, le logiciel s'assure d'avoir une ligne d'arrivée claire pour calculer le poids, les dimensions, puis ajuster l'inventaire.
C'est très logique vu de même.
Puis par contre, pour compenser cette restriction-là, le système offre une immense flexibilité ailleurs. T'sais. Un même produit physique existant peut appartenir à une infinité de lots différents.
Ah, ça, c'est une distinction super cruciale.
Ouais.
Donc, la tuque rouge physique, qui se trouve sur la vraie étagère de l'entrepôt, elle peut faire partie de la trousse hivernale, mais aussi du lot duo sportif, puis du lot boîte mystère de janvier, tout en étant vendue séparément aussi sur le site.
C'est exactement ça. Puis c'est ce qui prouve la robustesse de l'architecture relationnelle. La base de données établit que le produit individuel, tu sais, la vraie tuque rouge sur la vraie étagère, bien, ça reste la source de vérité absolue de l'inventaire.
La source de vérité absolue.
Peu importe par quel chemin la commande arrive, peu importe le nom promotionnel flamboyant que le marketing y a donné, les chemins algorithmiques pointent tous vers cette même tuque rouge-là.
Fait que le niveau de stock est toujours bon.
Le niveau diminue correctement à chaque vente, oui. C'est une intégrité d'inventaire qui survit à n'importe quelle frénésie promotionnelle du Black Friday.
Tu sais, ce que tu décris là, dans le fond, c'est comme un véritable traité de paix technologique entre deux départements qui sont souvent à couteau tiré dans les entreprises de commerce en ligne.
Ah oui, le marketing puis l'entrepôt, hein?
Exact. L'équipe du marketing a le mandat de vendre. Ils adorent inventer des combinaisons complexes pour créer une expérience, le fun pour le client.
C'est le job.
Ils veulent lancer des forfaits d'équipement avec plein d'accessoires, des abonnements mensuels thématiques. Mais avant cette cartographie logicielle-là, l'entrepôt devait détester ces initiatives-là.
Oh que oui, c'est un cauchemar pour eux.
Parce que chaque nouvelle promotion abstraite, c'est un casse-tête logistique de plus à déchiffrer avec leur tableau blanc.
Ouais, puis des erreurs, puis des clients pas contents.
Mais là, le marketing peut créer genre 100 lots différents sans aucune culpabilité. Parce que l'entrepôt va juste recevoir des instructions parfaitement traduites puis limpides par le système.
C'est la beauté d'une technologie bien pensée, tu sais. Elle agit comme un facilitateur humain, au final. Ça enlève la friction entre tes équipes.
Tellement. De plus, il faut pas oublier le contexte plus large dans lequel tout ça s'inscrit. Le ClickShip, c'est pas seulement un petit outil pour déchiffrer des lots d'inventaire.
C'est beaucoup plus gros.
C'est un écosystème d'expédition tout en un. Ça vient s'intégrer directement aux plateformes de vente pour automatiser le traitement, générer les étiquettes, puis accéder à des tarifs d'expédition négociés à la baisse avec les grands transporteurs.
Tout est connecté.
La fonctionnalité des SKU Bundles n'est pas isolée, pantoute. Elle nourrit l'ensemble de cet écosystème-là avec des données fiables pour que chaque maillon de la chaîne, de la vitrine web jusqu'au camion de livraison, fonctionne de manière complètement synchronisée.
L'exploration qu'on vient de faire illustre parfaitement à quel point notre confort numérique repose sur des strates invisibles de logique et puis d'organisation de données complexes. C'est fou quand on y pense.
On est parti de l'action la plus élémentaire qui soit sur le web. Cliquer sur un bouton coloré pour acheter un beau petit paquet cadeau.
Ouais.
Puis on a remonté le fil pour découvrir l'ingénierie complexe, les calculs de poids volumétrique en temps réel, puis même la protection contre les boucles infinies de données. Tout ça juste pour générer un simple morceau de papier qui va dire à un employé dans quelle allée de l'entrepôt marcher.
C'est fascinant, vraiment.
Je pense que la prochaine fois qu'une boîte d'abonnement parfaitement agencée va arriver sur le pas de notre porte, bien, on va tous avoir une bien meilleure appréciation de l'orchestration logicielle qui s'est déroulée en coulisses.
Je l'espère.
C'est le retour à notre fameux trio de services au volant, là. La cuisine de l'entrepôt a enfin un écran qui lui dicte la bonne recette sans hésitation.
C'est un excellent résumé de la mécanique actuelle, là. Mais je crois qu'il est intéressant de projeter cette réalité-là un peu vers l'avenir pour ceux qui nous écoutent.
Ah oui?
Qu'est-ce que tu vois poindre à l'horizon? Bien, actuellement, on utilise la cartographie logicielle de manière super réactive. Le marketing en vente un lot, puis le logiciel aide l'entrepôt à le comprendre puis à l'expédier efficacement, tu sais.
OK.
Mais si les systèmes accumulent des millions de points de données sur le poids volumétrique optimal, la fréquence de choc conjointe de certains articles, puis le coût d'expédition exact par région...
Ouais.
À quel point on est proche du jour où la dynamique va s'inverser complètement?
S'inverser comment?
Imagine un système prédictif, tu sais, au cœur même de l'entrepôt qui analyserait ses propres données logistiques pour suggérer de manière totalement autonome des combinaisons de lots à l'équipe marketing.
Wow!
Un système qui dirait genre, hey, si vous combinez ces trois articles spécifiques-là, l'emballage est parfaitement optimisé pour nos boîtes standards, puis les frais de port sont minimisés, alors lancez une promotion sur ce trio précis demain matin.
Ah, ça serait incroyable.
Mais ce jour-là, l'entrepôt se contentera plus juste d'exécuter la stratégie de vente. C'est l'intelligence logistique elle-même qui dicte la créativité du marketing avant même qu'un humain y ait pensé, là.
Eh bien, quelle pensée provocatrice pour clore notre analyse. L'entrepôt qui devient le vrai cerveau du marketing. Sur ce, merci tout le monde de nous avoir accompagnés dans cette plongée, puis à la prochaine.